Vous écoutez
RMC.
RMC.
Moi, je pense qu'on n'a plus de grands artistes. Il n'y a plus de Salvador Dali. Il n'y a plus de Andy Warhol. Je pense que les footballeurs aujourd'hui, c'est les grands artistes de cette société.
Non, mais j'ai peut-être dansé sur Coldplay, mais je devais mais pas être agent.
Il ne faut pas attendre.
Toujours 0-0 dans cette finale de la Ligue des Champions. Ça va être tiré de la droite vers la grosse.
C'est con, il a tout loupé. Il a tout loupé. Mais non, pas toi, Julien.
Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Julien Laurence, avec Paulo Breitner, Edgar Grollo et Daniele Manoussia, on est ensemble jusqu'à 22h. L'After prendra le relais comme tous les soirs, hein, jusqu'à minuit. Ce sera ce soir, bien sûr, avec Gilbert Bribois. Dans un instant, on parle de l'Atalanta, adversaire du PSG pour la première journée de Ligue des Champions. On parlera aussi de la Juve, vainqueur dans un match de foot de l'Inter. Et également au programme, Francfort est-il condamné en Ligue des Champions par son calendrier? D'abord, j'ai une question sur la chaîne WhatsApp, sur le compte WhatsApp de d'RMC pour toi, Edgar. Dylan, qui a 19 ans, qui nous écoute depuis Yaoundé au Cameroun, il me dit, en parlant du Real Madrid, qui est mon club de cœur, j'ai une question. Vu la forme du Real qui est en construction, que faire de Rodrigo? On a vu encore ce week-end qu'il n'a pas été titulaire. Ça m'intrigue beaucoup. Alors, ta réponse.
Oui, mais sa situation est intrigante.
Et ta ligne également aussi. La liaison est intrigante. On va essayer de la retrouver avec toi. Rodrigo qui est intéressé. Manchester United, je crois. Beaucoup de clubs anglais s'intéressaient à lui, Julien.
Il a été offert à terre entière. C'est pas forcément les clubs qui étaient intéressés.
Offert, ça va un prix quand même. Mais en tout cas proposé, quoi. Parce que c'était cher.
Oui, proposé, ça. Il a été offert. Oui, il a été offert. Ses agents l'ont offert. Enfin, proposé, si tu veux. À toute l'Europe et personne n'est venu. Hein.
Personne n'est venu, ça aurait peut-être pu faire du bien à United qui s'est incliné pour la troisième fois cette saison, quatrième match en quatre matchs. C'était ce week-end sur la pelouse de City, 3-0. Les Red Devils sont 14e de Première Ligue. Je rappelle qu'ils ont fini 15e la saison dernière. Avant que tu nous en parles, Julien, je voudrais qu'on écoute un ancien joueur de Manchester United, une légende, Roy Keane. C'était sur Sky Sports après match. Il a été aussi rugueux hein, qu'il était sur le terrain quand il a parlé de son équipe après la défaite. Écoutez.
Try tackling.
Yeah.
Try hitting somebody.
Tu regardes les stats du match et là c'est terrible. Pas un seul carton jaune. Pas un seul carton jaune. On parle du derby de Manchester. Il pleut, il y a des tacles de partout. Et là, United sort du terrain. Non mais, j'en ai marre de me répéter. À l'arrivée, tu devrais être incapable de te lever pendant une semaine. Et toi, qu'est-ce que tu vois? Qui n'ont pas pris un seul jaune. Mais essaye de tacler, essaye de toucher quelqu'un. Le foot, c'est un jeu physique.
Il était colère, Roy Keane. Hein. En même temps, on le comprend quelque part aussi. Bon, ça vient de lui, hein, qui était un milieu de terrain rugueux, certes, mais il voit aucune agressivité. Il voudrait voir à minima un semblant d'intensité, en tout cas d'agressivité.
Ouais, et la raison, c'est ce qu'on n'a pas vu hier. Alors, on l'a vu contre Arsenal, notamment lors de la première journée à Old Trafford. On l'a vu la saison dernière dans les gros matchs, notamment. C'est pour ça, dans la préparation dans l'analyse d'avant-match qu'on avait fait de ce match-là, dans l'after notamment, on avait parlé de ce que United avait fait de très bon la saison dernière, notamment contre les gros, où en général ils étaient plutôt au niveau, que ce soit City, Liverpool, Arsenal, en championnat, en Coupe d'Angleterre. Et ben pas hier. Et le problème, c'est que à l'image de Roy Keane, je pense que pendant un moment Amorim a eu avec lui, les anciens joueurs de United qui sont devenus consultants et qui sont très très influents en Angleterre, Roy Keane, Gary Neville, mais aussi un Rio Ferdinand, un Paul Scholes. Et là, depuis hier, c'est l'acharnement. Et je pense qu'ils ont raison. Ce qu'on a vu hier, c'est plus acceptable maintenant. Il y a des moments où on a pu dire, il y a un peu de progrès, on arrive à voir ce qu'ils essayent de faire. On est tous unanimes sur le fait que c'est un système, ce système-là, il n'y a que lui qui joue comme ça, encore une fois. C'est un système qui ne convient pas à l'effectif. Je pense qu'il ne convient pas au football anglais, à la Première Ligue en général, déjà. Mais bon, il est.
Il veut pas changer.
Il a encore dit hier, le système. Ouais. Voilà, il a dit le système ne changera pas. Si vous voulez changer, vous devez changer l'homme. Le système ne changera pas. À un moment, ça va lui coûter cher. Mais bon, c'est 8 victoires en 31 matchs de championnat depuis qu'il est arrivé. Le pire record de l'histoire du club depuis la Seconde Guerre mondiale. On n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que même les pires entraîneurs de l'histoire de United avant lui. On fait mieux que ça, 8 victoires en 31 matchs, il a 31 points en 31 matchs de championnat, c'est un point par match, on est du niveau de la relégation là quasiment. Donc c'est très compliqué et peut-être le pire finalement hier, c'est que en fait tout ce qu'on a vu de la part de Manchester City, c'était pas une bonne première période, c'était pas une bonne équipe de Manchester City en première période, ils ont été bien meilleurs en seconde période, mais c'est une équipe de City qui est loin d'être parfaite aussi, comme le Napoli de Daniele va s'en apercevoir jeudi. c'est une équipe qui est prenable en ce moment, qui est encore en transition, il y a plein de choses à régler pour Guardiola, etc. Bref. Et pourtant, on savait très bien ce que United allait faire et comment City allait contrer United. On savait très bien qu'un milieu à deux, Bruno Fernandes ou Ugarte, c'est pas possible à ce niveau-là. Je suis désolé, j'aime beaucoup Ugarte. En plus, c'est un ancien parisien, tout ce qu'on veut. Mais c'est pas possible. Le niveau est trop haut pour lui. Et Bruno Fernandes, c'est pas son poste. Et c'est pas la première fois qu'on le dit. On va le répéter. Et Guardiola a très bien vu tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis beaucoup de joueurs dans l'axe du milieu de terrain. Forcément, ça a créé un surnombre pour Manchester City. Forcément, United était à la rue, notamment en début de seconde période. Et c'est très compliqué pour eux. Et je l'ai dit et je le répète, que tu aies dépensé quasiment 250 millions d'euros sur Cunha, Mbomo et Chesco à l'intersaison, très bien, c'est ton argent, fais-en ce que tu veux. Mais que tu n'aies pas recruté un milieu de terrain digne de ce nom pour cette équipe-là, pour ce système-là, c'est juste incroyable. Sincèrement, c'est hallucinant, je trouve.
Mais Julien, où est Ineos là? Où est la direction? Où est Jim Ratcliffe? Est-ce qu'il y a une parole officielle, en tout cas, sur la série terrible? Il y a une stat, hein, qui est effrayante pour United. C'est, si le championnat avait commencé à la prise de fonction d'Amorim, United serait dernier de première ligue, hein, si on exclut les relégués et les promus de l'an dernier. Où est Ineos là, dans cette affaire-là?
Ineo, on a vu sur Jim Ratcliffe hier, alors ils ont mis du temps à le trouver dans le stade, ils ont fini par le trouver à la fin, après le 3-0, le pauvre, il avait l'impression qu'il avait perdu toute sa fortune, toute sa famille, toutes ses maisons, toutes ses voitures, enfin tout ce qu'il a quoi. Il avait l'impression que le pauvre, en plus il avait plu beaucoup. Ils ont dépensé beaucoup d'argent, hein, quasiment 2 milliards d'euros, pas loin, pour un quart des parts du club. Donc il est même pas décideur parce qu'il a pas assez de, pour l'instant, il s'occupe du sportif, mais au-dessus de lui, les Glazers continuent, ça reste les patrons, de toute façon. Et quand on voit ce qui lui arrive et ce qu'il a fait depuis un an, qu'il est entré dans le capital de son club. En plus, c'est son club, lui, qui est du sud de Manchester. C'est du gâchis, ça. Mais de toute façon, c'est un gâchis incroyable, ce club, depuis le départ de Sir Alex.
Alors, oui, rappelle-moi, quelle année il est parti, Ferguson?
2013, le dernier titre.
Donc ça fait 12 ans que ce club végète, n'arrive plus à jouer à un titre en Première Ligue ou être ambitieux sur la scène européenne.
Oui, il y a quelques bons moments. Mourinho, une victoire en Europa League, une deuxième place en championnat. Il y a eu beaucoup d'argent dépensé, mais tu as eu aussi beaucoup d'instabilité à tous les niveaux, que ce soit chez les entraîneurs, les directeurs sportifs, même tout en haut du club, chez les directeurs exécutifs. Tu as eu, pendant que les autres avançait, en tout cas dans la bonne direction, t'avais vraiment l'impression que United, même quand il y avait un pas en avant, ils en faisaient deux en arrière pas longtemps après. Et entre la gestion sportive, la gestion financière, tout ça, c'est vraiment un gros gâchis et c'est dommage. On est qu'à la quatrième journée, ils vont peut-être s'en sortir et je souhaite à Amorim le meilleur, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est compliqué. Et samedi ils reçoivent Chelsea à Old Trafford. Pour moi, s'ils perdent et qu'ils prennent une volée encore, ça peut vraiment, à mon avis pour lui, hein, la pression sera trop intense.
Bon, Edgar est de retour. Polo, tu voulais réagir?
Non, mais
sur United,
en fait, j'ai deux questions. Un, je donne les clés à Julien pour United, qu'est-ce qu'il fait? Et deux, je me rappelle quand même que les succès de Sir Alex, c'était un succès à football très anglais, son fameux 4-4-2 avec beaucoup de joueurs anglais. Ouais. Et évidemment, on fait 12 ans, là, 2013, je ne me rappelais même plus que c'était ça, il y a eu, c'est vrai, deux deuxièmes places, je crois, en championnat de mémoire. Ouais. Mais je ne vois pas. On a presque l'impression que le club meurt tranquillement, quoi. C'est-à-dire que les coachs passent. Et puis il se passe rien. Ok, il y a des victoires en Europa League, mais bon.
Non, mais t'envoies de l'oseille tous les étés en espérant des jours meilleurs, quoi.
Mais je me demande si c'est pas, j'ai pas envie de dire structurellement, mais en fait, Sir Alex, c'était le Britannique dans toute sa splendeur. Avec un football, et donc aujourd'hui, très bien, on va chercher les Portugais, on va chercher les Allemands, on va chercher les Italiens, ça marche pas, les Néerlandais, et puis finalement.
Ouais, je sais pas. Après, hier, juste pour finir, Bruno Fernandes, après le match, c'est souvent lui qui vient quand ça se passe pas bien. C'est le capitaine. Très bien. Il a quand même répondu un moment sur la tactique. Et puisque, de toute façon, au cœur du problème, il y a ce système tactique-là. On va pas en refaire des tonnes et des tonnes. Mais c'est la vérité. Tu peux être très bon dans ce système-là. Bien sûr, son sporting à lui, à Amorim, l'a été. Mais encore une fois, hein, que ce soit le seul gros club en Europe qui joue comme ça, rien que ça, déjà, ça doit alerter un petit peu. Et
mais c'est quoi, s'il change pas, c'est par orgueil, tu penses? C'est un têtu Amorim, ou c'est juste qu'il est convaincu que c'est la bonne solution, que c'est le bon système pour arriver à ses fins?
Un peu des deux.
C'est que de l'orgueil.
Mais hier, Bruno dit quand on lui parle du surnombre, enfin du sous-nombre pour United au milieu de terrain notamment, il dit bah oui, mais quand on joue en défense à 3 ou à 5 ou à 4, on sait plus trop, et qu'au milieu de terrain on n'arrive pas à suivre tout le monde parce que bah derrière il faut que les défenseurs centraux, puisqu'on en a 3, puissent monter au milieu de terrain aussi pour nous aider, et ben on prend l'eau en fait. Et ça veut dire qu'on commence déjà à avoir aussi même le plus fidèle des fidèles parmi les fidèles. Je veux dire, Bruno Fernandes et Amorim, c'est la famille, quoi. Si même lui commence, même de façon un petit peu, on va dire, masquée ou voilée, à critiquer le système, le milieu de terrain, c'est que ça va vraiment pas bien, quoi. Vraiment, vraiment pas bien. Donc, à voir ce qu'il va faire. Mais moi, je pense qu'il changera pas. Et je pense que ce système-là peut pas réussir.
Et qu'il sautera dans quelques semaines, peut-être également. Exactement. En tout cas, la pression n'a jamais été aussi forte sur Ruben Amorim. Bien sûr, on suit ça tous les lundis soirs. Tiens, un but a été marqué en Ligue 2 entre Guingamp et Montpellier. Xavier Grimaud.
Ouais, l'ouverture du score pour l'en avant. Guingamp avec une mauvaise alignement, mauvaise sortie de la défense montpellierenne. Et Donatien Gomis, suite à un corner, il est resté aux avant-postes et il vient couper la trajectoire alors que l'ancien Marseillais Simon, le gardien, était sorti un peu à la pêche là. Et il peut lober le gardien et donc ouvrir le score. C'est logique, hein, Guingamp était l'équipe qui dominait sur ce début de rencontre. On atteint la demi-heure, 1-0 donc pour l'en avant face à Montpellier.
Alors Edgar, on en est avec Rodrigo justement.
Oui, j'ai pas essayé d'éviter la question tout à l'heure. C'est juste un problème de ligne, je vous rassure. Non, mais Rodrigo, effectivement, comme a dit notre auditeur, c'est une situation intrigante, tout simplement, parce que il fait partie de ces joueurs qui parfois fait des tours sur le banc, puis le match d'après il est titulaire. On nous expliquait que quand Xabi Alonso est arrivé, il avait une super relation avec lui, qu'il lui parlait tout le temps à l'entraînement, etc. Résultat, il a fait je sais pas combien de matchs d'affilée sur le banc. Évidemment, on a parlé tout l'été d'un potentiel départ. Ça semblait, au vu de la saison dernière, presque inévitable qu'il y ait soit Vinicius Junior, soit Rodrigo qui partent, et donc plus probablement Rodrigo. Finalement, il est là. Lui, il a vraiment montré son envie, son ambition de réussir au Real Madrid. C'est son rêve. Il a déjà réussi au Real Madrid, mais maintenant, il faut réussir sur la durée s'il veut vraiment devenir une légende du club. Dès qu'il en a l'opportunité, il essaye de montrer son amour pour ce club-là, mais maintenant, il va falloir surtout gagner en régularité, parce que Rodrigo, quand on prend sa dernière saison, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop irrégulier. Oui, c'est un superbe joueur qui est capable de te faire des grands matchs et qui est un homme des grands matchs de manière générale, mais on a besoin de plus pour être titulaire au Real Madrid.
Un homme qui a besoin d'enchaîner les matchs, ce qui n'était pas le cas la saison dernière, oui, en réalité, c'est ça.
Oui, mais la saison dernière, il avait presque un totem d'immunité, c'est-à-dire que il faisait 10 matchs d'affilée qui étaient plus que moyens, et il était quand même titulaire. Et ça, pour le coup, c'est vraiment fini avec Xabi Alonso, qui n'hésite pas à mettre un tel ou un tel sur le banc, que ce soit Rodrigo ou même Vinicius qui a été sur le banc. A priori, ça peut-être pousser Rodrigo aussi à être un petit peu plus régulier. En tout cas, c'est ce qu'espère Xabi Alonso, évidemment.
Alors, l'Atalanta, Bergame, adversaire du PSG mercredi soir, qui s'est rassuré, Daniele, ce week-end, victoire 4-1 face, c'est vrai, aux données de Serie A, hein, la Lecce. Oui. Comment l'Atalanta aborde son retour en Ligue des Champions face au PSG, qui plus est? Il y a beaucoup d'absents déjà, hein.
Ben oui, déjà c'est une revanche du quart de finale joué en plein Covid en 2020, la première fois que l'Atalanta, les supporters de l'Atalanta peuvent aller à Paris parce qu'ils ont joué à Lisbonne ces matchs-là. En plus, je ne sais pas s'ils ont pu faire les déplacements. Et déjà ça c'est très important parce que c'est les bouts de chaque équipe petite comme l'Atalanta, parce que je rappelle, c'est l'équipe de Bergame. Elle était très bien gérée, mais c'est vraiment pas dans les puissances en Italie. Le fait qu'elle joue la Champions League, c'est important, c'est un bon message. Ça veut dire que si on travaille bien, voilà, pas différemment que le Manchester United, on peut arriver à jouer ce genre de matchs. Et voilà, en plus, ces matchs-là contre Paris, il le gagnait à la 90e minute. Après, il y a eu le but de Marquinhos. Et après, celui de Choupo-Moting. Donc voilà, c'était un très beau match. Ils l'ont très bien joué. Mais là, c'est une différente Atalanta. Gasperini, il est parti après 9 ans. Et Juric, qui est arrivé après 2 saisons horribles avec la Rome et les Southampton. On ne sait pas s'il est, comment dire, au niveau. C'est le beau-fils, on va dire, de Gasperini, un de ses élèves. En Italie, on est plein d'élèves de Gasperini. Marquage individuel, pression très haute. Mais l'Atalanta, elle n'est pas comme ça vraiment pour le moment. Ce n'est pas la machine de pressing que Guardiola a comparé en séance chez le dentiste. Mais c'est vrai qu'au présent, les équipes, du moins en Italie, sont habituées à jouer contre les marquages individuels et à les faire échouer en jouant en profondeur. Donc, il faut voir déjà comment Paris va s'en sortir si l'Atalante, elle va vraiment le prendre sur le haut du terrain. Après, il n'y a pas Lookman, leur meilleur joueur.
Il faut expliquer, effectivement, il y a un gros conflit avec Lookman. Juric n'en veut pas, qui dit bon.
Non, c'est lui, c'est Lookman qui a quitté l'entraînement. Après, Juric, il venait de dire, voilà, si lui il est sérieux, moi je le rentrais et tout. Et lui, il a pas voulu s'entraîner, il s'est pas montré dispo, il a quitté. Donc voilà, là on sait pas qu'est-ce qui va se passer. Je pense qu'à janvier, il va à ce point-là, c'est mieux s'il va à l'Inter.
Oui, c'est ça. Après, l'Inter avait proposé 45 millions d'euros cet été, justement. Ça n'a pas suffi à convaincre les dirigeants bergamasques.
Bah oui, mais c'est les montants.
Oui,
ils avaient perdu Retegui, donc ils ne voulaient pas vendre Lookman. Et en plus, c'était la manière dans laquelle l'Inter l'ont demandé. Ils l'ont déjà dit aux journaux. Ils ont dit oui, on va prendre Lookman et tout ça. Et je pense que Pierre Cassi, qui est le président de l'Atalante, il n'a pas mis la manière, le style. Après, ils n'ont pas Scamacca parce qu'il est encore blessé au genou. Après, je ne vais pas en faire trop. Sinon Julien il n'est pas content. Ils n'ont pas Ederson qui c'est leur milieu terrain, un des meilleurs en Italie dans les passés, et qu'il a été opéré du genou le mois d'août et il va revenir pour octobre. Et ils n'ont pas Kolasinac qui à la défense il était assez important. Et ils ont gagné 4-1, tu viens de le dire, contre Lecce, qui c'est une des équipes destinées on dirait à la relégation. Après on va voir, mais Di Francesco leur entraîneur, il a été relégué deux fois de suite avec d'autres équipes. Lecce, ils ont déjà obtenu la troisième permanence en Serie A historique. Donc ça, c'est un peu l'année sur laquelle Lecce, il va descendre. Mais ils ont fait un beau match. Et ils ont mis un peu en difficulté l'Atalanta, qu'après, dans la deuxième période, ils ont mis leur but. Dès qu'Etelar, il est très en forme.
Qui met un doublé.
Zalewski, il est très en forme. Mais d'ici à donner des problèmes au PSG, même non. Avec tous ses remplaçants, c'est très, 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 très difficile. Mais voilà, s'ils font le match de leur vie, pourquoi pas?
Ce sera sans Kolasinac, tu l'as dit, Ederson, Scamacca et Michel Baker, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Justement, ce sera mercredi soir à 21h sur RMC. Le débrief dans l'after, bien sûr. Allez, on enchaîne par une nouvelle minute ce soir. Elle est espagnole. On envoie la musique, Paulo. Si todo se apaga, tú eres mi luz. Cuando tú y yo conectamos.
Mi luz. Ma lumière, c'est une chanson des artistes espagnols RVFV et Rels B. Je vous conseille très très forcément ce son. Hein. D'ailleurs, faites-vous plaisir.
Bon,
moi, je l'écoute beaucoup. Voilà. C'est peut-être pas ton style, Nico, mais moi, ça me fait kiffer. Voilà, je vous le dis.
Là, c'est bien. J'ai Polo en studio qui.
Je vois
les réactions sur le visage de Polo.
Je suis avec toi, Edgar.
C'est pas dans sa playlist. Mais moi, j'adore cette chanson. Voilà, allez l'écouter.
Daniel, c'est ta cam ou pas ça?
Je peux l'écouter, oui, pendant que je fais autre chose.
La vaisselle, par exemple, et encore. Vas-y, Edgar. Ouais.
Bon, on est des hommes de la radio. Des fois, t'écoutes d'une oreille et tu fais autre chose en même temps. Voilà. Dans cette chanson, en plus, il y a des paroles révolutionnaires. Il y a cette phrase qui va vous mettre les larmes aux yeux, j'en doute pas. Si tout s'éteint, tu es ma lumière. Et arrête à fait, ça fait un moment que tout est éteint et que la lumière s'appelle José Bordalás. C'est l'entraîneur de cette équipe et sans lui, Retafe serait sûrement en deuxième division. C'est un coach qui provoque des miracles permanents, on a l'impression. Retafe actuellement, c'est 3 victoires en 4 matchs, 3e de Liga. Ils ont commencé la saison en gagnant à Vigo avec seulement 13 joueurs professionnels inscrits, dont 2 gardiens. Ils ont même pas pu faire tous leurs changements. Ils avaient fait un seul changement en deuxième période, ils avaient réussi à gagner. Ils ont des gros problèmes financiers, des grosses difficultés avec le fair play financier, mais Bordalás, il fait avec. C'est un entraîneur que certains n'aiment pas, certains trouvent qu'il est anti-football, qu'il gare le bus, mais c'est surtout un entraîneur qui s'adapte à ses joueurs et il le répète souvent, l'important c'est de faire au mieux avec les qualités que tu as. Alors des fois ça veut dire que il va adorer un bon vieux 4-4-2 à plat classique, des fois comme sur ce début de saison, il n'hésite pas à mettre 5 défenseurs. En tout cas, c'est jamais facile de jouer Retafe. Ils ont cette réputation là. C'est une équipe, je le disais, qui a très peu de moyens. Ils ont dépensé moins de 2 millions d'euros cet été pour acheter des joueurs, alors qu'ils ont vendu pour 12 millions d'euros. Mais voilà, Bordalás s'y fait avec. C'est quelqu'un de super passionné sur le bord du terrain, super investi. On voit des joueurs qui donnent l'impression de partir à la guerre presque. Et tout ça, ça m'a fait penser, vous savez, à la fameuse citation de Sir Alex Ferguson qui dit: donnez-moi 10 bouts de bois et Zidane et je gagnerai la Ligue des Champions. Et ben bah, Bordalas, évidemment, il a mieux que 11 bouts de bois, mais j'ai l'impression que si on lui donnait 11 bouts de bois, il se maintiendrait quand même en Liga. C'est Monsieur Miracle, José Bordalas.
Tu me dis quand même que c'est assez moche à voir, c'est pas esthétique.
Ah, c'est le pire football de l'histoire.
Tu me parles du GIGN sur un terrain de foot, quoi. C'est une équipe de militaires, autrement. Bref.
Bordalas. Voilà, c'est le mot boucher souvent.
Mais c'est beau, l'hommage que tu rends à un homme qui nie l'esthétisme des jeux, mais.
Moi, si je suis supporter de Rétafé, je préfère jouer comme ça en Liga. Mais bon, ça, c'est chacun ses goûts.
Très bien. C'est la minute d'Edgar, musicale, discutable, Serge. J'ai du mal à croire que Julien aime vraiment ce son. Julien, c'est vrai?
Ou si, tu veux Bad Bunny, mais moi, Maluma,
Bad Bunny. Ah, c'est Bad Bunny, c'est le mec que Mbappé est allé voir.
Ah non, on a
c'est
voir.
Pas Bad Bunny là.
Non, mais on n'est pas très très loin.
Ah, d'accord. Pas très loin. Voilà.
On est dans l'esprit un petit peu reggaeton. On est, dans ce qui marche très bien en Espagne. Et en Amérique du Sud. Merci Julien, voilà.
On va faire une petite Julien salue. Veut pas vieillir en fait, la vérité elle est là. Allez, dans un instant la suite, la grande Juve est-elle de retour? On en parle avec Daniele et
Hermano, vamos.
L'Eintracht Francfort est-il condamné à la Ligue des Champions par son calendrier dingue? On va le citer, les 8 matchs de la phase de Ligue pour les Allemands. À tout de suite sur RMC avec les drôles de dames.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération After avec Paulo Breitner, Julien Laurence, Edgar Grelot et Daniele Manoussi. À rapide détour par la Ligue 2, Guingamp-Montpellier. Où en est-on, Xavier Grimaud?
On approche de la pause, la 43e, toujours à zéro pour l'en avant, avec qui ont failli doubler la mise après une très belle action collective, un centre venu de la gauche et Mafuta qui était un petit peu court. C'est assez pauvre pour l'instant Montpellier, juste une frappe au-dessus d'Alexandre Mendy à vous raconter. La 44e, 1-0 pour l'en avant Guingamp, le buteur c'est Donatien Gomis.
Et à l'étranger en Liga, 4e journée, la fin de la 4e journée, l'Espagnol Barcelone mène 1-0 face à Mallorca, 0-0, c'est terminé entre Hellas Vérone et la Cremonese qui reste quand même dans le trio tête. Et on me dit à l'instant, mon cher Daniele, que Côme mène 1-0 grâce à un but exceptionnel de Nico Paz.
Eh oui, encore une fois, il a fait un 360 sans le skate. Et pour s'en sortir, parce que faut dire, le jeune de Vieira, c'est une équipe assez brutale. Ils ont essayé de. Ils tapent les joueurs de comment au début de match. Ouais, lui, il a bien sorti avec ses dribbles. Après, il a mis une frappe superbe avec son pied gauche, vraiment exceptionnel.
Bon, Daniele, match de folie samedi soir à Turin. Tu l'as déjà débriefé dans l'after il y a 48 heures. La Juve qui a renversé l'Inter après avoir été menée 3-2. Beaucoup d'histoires dans ce match. Tu as rappelé celle des frères Turin, bien sûr. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce résultat, déjà, après 3 journées, peut changer les ambitions des deux équipes? Commençons par la Juve, dont toi, si je me souviens bien, au début de l'été, tu en as fait un des favoris pour le Scudetto.
Bah oui, moi j'avais dit que c'était, en tout cas ça pouvait être un possible outsider, même si de dire que la Juventus est un outsider c'est toujours bizarre. Mais après ils ont complété leur marché avec Openda et Zegrova, donc ils ont encore amélioré leur équipe. Je pense qu'ils sont vraiment dans la course. Après il faut voir si ça tienne. Ils ont pas très bien joué, c'est-à-dire ils ont mis les 1-0, ils ont été égalisés par Çalhanoğlu, ils ont mis les 2-1, mais pendant tout ce temps-là ils ont que défendu. C'était pas la Juventus qu'on était habitué à voir au début de saison dans les autres matchs, très haut dans les terrains, mais là c'était, et là elle était passive. Elle a laissé les ballons à l'Inter qui elle a eu les 65% de pourcentage de possession, et ils ont défendu, ils ont mis ces bouts là, mais pour plutôt des beaux gestes individuels. Notamment il y a eu un but très très beau de Ildiz, mais dans ces matchs tous les buts ils sont beaux. Çalhanoğlu, il a mis un doublé incroyable. Et par contre il faut dire, l'Inter, ils ont bien joué. Il n'y a pas un joueur ou plusieurs joueurs de l'Inter qu'ils ont mal joué. Les supporters là, ils l'ont un peu contre Akanji aussi pour le but de Kelly. Ils disent qu'il devait marquer plus de près Kelly, mais moi je pense que c'est pas vraiment sa faute. C'était une situation assez exceptionnelle. Et Bremer, il a fait, lui, il a fait 2 assists. Les défenseurs du centre de la défense de la Juventus, il a mis 2 assists dans les mêmes matchs. Donc, pour dire aussi la folie du match. Mais une fois que la Juventus elle a été menée par l'Inter, quand l'Inter a mis les 3e but, 3-2, par Marcus Thuram, ben là Tudor il a mis Openda, Jonathan David, il a mis João Mario, qui est beaucoup plus offensif que Kalulu sur l'extérieur de droite, et il a commencé à presser en haut l'Inter. Et là aussi Kefren Thuram, il a joué beaucoup mieux, parce que c'est un joueur qui joue beaucoup mieux quand il peut défendre vers l'avant plutôt qu'en position où il a laissé Çalhanoğlu. Il a mis 6 frappes dans tout le match. C'est quand même exceptionnel. C'est un match qui montre aussi une tendance un peu dans les championnats italiens. Les équipes, elles ont des difficultés à rentrer dans la surface avec les ballons. Donc, soit on met des centres, et l'Inter, elle a mis beaucoup de centres aussi hier, soit on essaie de frapper de l'extérieur de la surface. Et ça, c'est un problème un peu. Ça devient un peu un problème parce que ça montre que ça manque des qualités dans les dernières 20-30 mètres. Et c'est une chose à améliorer pour l'Inter, mais aussi pour la Juventus. Bon, après, l'Inter, 2 défaites dans les premières 3 matchs de championnat. C'est inattendu. Et là, déjà, le match contre l'Ajax à Amsterdam de mercredi, c'est un peu un match qu'il faut gagner. Sinon, qui vous... Voilà,
déjà,
il va avoir chaud aux fesses. Déjà, je ne sais pas si on peut dire ça.
Oui, si tu peux le dire, hein, chaud aux fesses. C'est très, tout à fait poli, Daniele. Oui. Il serait déjà sous pression, tu penses, Kivu ?
Mais là, il est là, Marotta, et pas directement. Ils n'ont rien dit, ils n'ont pas laissé des interviews, mais les journaux, il a toujours filtré des choses. Il les défend. Ils ont accusé la superficialité de certains joueurs. Ça, c'était l'expression rapportée par les journaux. On ne comprend pas avec qui il l'avait. C'est possible même qu'il avait contre Marcus Thuram parce qu'il a souri, on ne sait pas. Ou contre Sommer, parce que sur le dernier but incroyable de Hadžić, il arrive avec ses mains, mais il n'arrive pas à repousser les ballons. Mais on ne sait pas. Mais pour le moment, il les défend. Après, on ne peut pas les défendre tout le temps. Il faut aussi assurer des résultats, et sinon, il faut essayer de changer. Et en Italie, quand il faut changer, la première chose qu'on change, c'est souvent l'entraîneur.
Ouais, donc on va suivre ça. Hein. Kivu, tu l'as dit, Amsterdam sur le terrain de l'Ajax, c'est mercredi soir en Ligue des Champions. L'Inter a déjà 6 points de la Juve et du Napoli après seulement 3 journées. La Juve qui va affronter le Borussia Dortmund, ça c'est demain soir en Ligue des Champions. Polo, le Dortmund qui s'est imposé 2-0 sur la pelouse d'Edenheim, deuxième de Bouli, hein, 7 points sur 9. Comment tu juges ce début de saison des hommes de Kovac ? Avec ton micro, vas-y.
Et il faut rappeler que lors de la première journée, il y a eu un fameux 3-3 entre Szampaoli et Dortmund, et que c'est pas qu'on réclamait la tête de certains joueurs, mais donc c'est un peu compliqué. Là, ils ont réussi à redresser la tête. On peut pas dire que c'est extraordinaire dans le jeu. Par contre, c'est cohérent façon Niko Kovac, évidemment très méticuleux. Ce qui est toujours intéressant lorsqu'il y a Juve et le Borussia Dortmund, bah tu vois, on va toujours chercher un joueur allemand qui a joué pour les deux clubs, donc Andreas Müller, évidemment. Et puis la fameuse finale de Ligue des Champions de 1997, en oubliant que la plupart du temps, la Juve l'emporte lorsqu'il rencontre le Borussia Dortmund. Je pense que ça va être un super test pour le Borussia Dortmund, pour voir où ils en sont en Ligue des Champions. Il va falloir... Moi, j'aime beaucoup ce qui se passe en ce moment avec Adeyemi et Bayer derrière Guirassy. C'est-à-dire, en gros, on joue beaucoup sur les contres et on essaye de tenir la baraque, etc. Le match de ce week-end était fondamentalement pas intéressant, puisque Heidenheim, étant déjà un candidat à la relégation, trouve le moyen de se faire expulser son joueur après un quart d'heure de jeu. Donc, en fait, c'est un peu comme Bayern-Hambourg. Donc, moi, l'intensité va évidemment être plus importante contre la Juve, sauf à penser que la Juve va laisser quelques plumes contre l'Inter. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Moi, ça va permettre un peu au Borussia de se tester, voir ce qu'on peut faire. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'ils vont se qualifier pour le top 24. Top 8, ça va être un peu compliqué, mais ça peut le faire.
Je n'ai pas en tête, là, justement, le calendrier du Borussia Dortmund. Je crois qu'il n'est pas l'un des pires non plus.
Non, c'est vrai.
Pour le Borussia. Écoute, on verra ça. En tout cas, pour l'instant, deuxième du Bundesliga après 3 journées. Allez, c'est parti pour le temps. C'est la mi-temps entre Guingamp et Montpellier. 1-0 pour Guingamp à la mi-temps face à Montpellier. Match de Ligue 2. La minute musicale anglaise, elle est pour Julien Laurence. On envoie la musique, Paulo. And the man them go a cracking again. And the man them go a cracking again. Edgar Boulot va kiffer aussi, je pense. Hein.
Bien sûr.
Il y a une filiation sur le vieux, les gars. 20 ans d'écart, mais.
Obligé maintenant, mais c'est magnifique.
Même culture, c'est beau.
Je vous laisse un petit peu quand même kiffer.
Ouais, bien sûr, on kiffe.
Ouf Daddy de Jay Huss, je vous le conseille bien sûr. Ça vaut vraiment le déplacement, c'est du très très haut, très très haut niveau. C'est une musique qui sert à rien, je vous le dis tout de suite. Vous pouvez l'écouter, mais elle ne sert à rien. Mais elle m'a fait kiffer, donc voilà, c'est la minute du soir. Harvey Barnes, l'ailier anglais de Newcastle, sa femme a accouché ce week-end d'un deuxième enfant pour la famille, ouais. Barnes, donc un petit Noah qui est donc né le 11 septembre. 11, comme le numéro de son papa, donc Harvey Barnes qui porte le numéro 11, mais pas simplement
parce qu'il est né à 11h11 du matin, le petit, le 11 septembre. Et son papa a le numéro 11 dans le dos. Voilà, la meilleure minute.
C'est vrai, non, c'est sérieux, non, c'est une blague là.
Ouais, non, je te jure, c'est vrai. Non, donc moi j'ai trouvé ça marrant.
Non,
donc,
non, non, c'est juste de nous proposer ça qui est vrai ou pas. C'est sérieux,
enfin,
c'est...
Oui, non, bien sûr, bah oui, je m'en tirerai pas à l'antenne quand même.
T'allais quoi, en page 48 11... du Daily Mail, c'est quoi?
Non, 11h11, le 11 septembre, papa numéro okay. 11 à Newcastle. Magnifique. Voilà, bravo. Moi je dis franchement, c'est... respect à la famille.
Ouais, bravo, c'est calculé peut-être. Mais, bravo à madame peut-être aussi.
Je crois oui, qu'on connaissait les Griezmann qui naissent tous le même jour. Bah maintenant on a les numéros 11 pour les Barnes, quoi.
Je croyais que tu allais me vendre l'histoire de ce supporter de United qui travaillait à l'Etihad, à la buvette, et qui a mis un maillot de Manchester United, qui s'est fait virer par le club.
Oui, qui a été dénoncé et qui s'est fait virer. Ou alors aussi, pour finir sur ce genre d'histoire, l'équipe de filles de Manchester United, qui, enfin des femmes, pardon, les féminines, qui sont allées jouer à... en Norvège, leur match de qualification pour la Ligue des Champions, et que quand elles sont arrivées à Bergen, n'avaient plus leurs chaussures de foot, qui avaient disparu entre le départ de Manchester et l'arrivée en Norvège, elles avaient disparu. Et donc un responsable du club a dû aller dans un magasin de cette petite ville pour acheter 15 paires de chaussures et 20 paires de protège tibia parce qu'il en manquait trop. Et donc elles vont jouer avec des chaussures. C'est incroyable. À ce niveau-là, je trouve ça hallucinant encore. Mais bon, voilà. J'ai préféré le numéro 11 de Barnes.
Ce qui est super, c'est qu'avec toi, tu peux faire 3 minutes en une seule minute, Julien. Bravo à toi.
Voilà. Bah, Daniel, il fait 15 minutes. Pour une minute.
Ouais. Daniel, bah, t'as vu, il était recadré, Daniel.
Mais toi, mais la sortie, pour combien de temps, celle-là?
Qui aurait osé faire une telle minute, les amis, franchement? Bref, Julien Laurence, merci quand même pour l'histoire. Harvey Barnes, donc, qui devient père pour la deuxième fois. J'attends avec impatience celle de la semaine prochaine, mon cher Julien.
Il va nous faire Yacine Bamou qui vendait des maillots à la boutique.
Oui, c'est ça, exactement, tu vois. Bah,
moi, si vous voulez, je peux vous faire du reggaeton italien aussi. Hein.
Tu peux le chanter en direct ou pas, tu crois?
Non, mais je peux. Il y a beaucoup de chansons.
Il y a déjà Edgar pour le reggaeton qui a fait son apparition cette saison. On y avait échappé depuis quelques temps déjà, mais bon, écoute, pourquoi pas.
Essayez d'insister un peu, Nico, parce que je sens que ça te plaît.
Tu vas insister. Va au bout de ton personnage, hein, et tes goûts surtout. Hein, assume tout. Hein. Regarde, Julien, ça fait des années qu'il assume ses choix. Il est toujours là, malgré tout. Allez, dans un instant, la suite, c'est des drôles de dames sur RMC, les 20 dernières minutes au programme. Francfort et le FC Barcelone. On va parler de Pedri. Pedri est-il plus important que Yamal au Barça? Reste avec nous, la suite dans un instant. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Julien Laurence, Edgar Grelot, Paulo Breitner et Daniele Manoussi à la mi-temps, hein, entre Guingamp et Montpellier en Ligue 2, 1-0 pour Guingamp. Tiens, sur le chat de la chaîne YouTube de l'After, Soufiane nous dit: est-ce qu'on dit chaud aux fesses en allemand, italien, anglais ou espagnol? Il s'interroge également sur la maîtrise des expressions françaises de Daniele Manoussi. Daniele, t'as vécu en France, hein? Faut qu'on te présente un peu aussi quand même, non?
Oui. Tu connais le pays? Quelques temps à Paris, non, on dit des choses plus vulgaires en italien, c'est tout plus vulgaire.
Ah, d'accord, plus vulgaire. Vous avez l'expression en tête, les amis, dans vos pays respectifs, ou pas, une expression que vous aimez? Polo, toi, en allemand?
Je suis en train de chercher, là. En plus, le pire, c'est qu'on les entend à longueur de temps.
Surtout quand on parle de foot, hein, j'imagine.
Oui, et puis quand il faut la sortir, évidemment, tu l'as pas.
Julien?
Exactement.
T'as une expression préférée ou pas, toi, en anglais?
Non, pas trop.
Pas trop, super les gars, super minute à l'antenne, magnifique. Edgar non plus.
Non mais je suis comme Polo là.
Si tu veux, je te traduis en italien.
Vous en parlez tout le temps dans votre quotidien, les expressions toutes faites dans votre langue.
Si tu veux, je te traduis, Nico.
Ah, vas-y.
Il faut assumer. Hein. Il brûle le culo.
D'accord, j'ai chaud au cul, quoi, c'est ça?
Il brûle.
Ouais, c'est ça. D'accord, ouais, c'est ça. Ouais. Il brûle. C'est une traduction littérale de l'expression.
Oui.
Mais c'est pas une expression italienne.
Si,
aussi, d'accord, oui. Ok, très bien. Bon, très bien, ça marche aussi. Voilà, parlons de l'entrée de Francfort alors, sur ce moment de solitude. Oui. De retour en Ligue des Champions, mais pourquoi faire? Ça, c'est la grande question, parce que quand on regarde la liste des clubs que l'Eintracht va affronter, il n'y a pas pire, hein, je crois, Polo. C'est tous les clubs, là, on peut l'utiliser devant toi ou pas? T'as la liste?
Ouais, je l'ai. Galatasaray, donc, qui a fait un très bon recrutement. Ah, oui. Déplacement à l'Atleti, ils reçoivent Liverpool, ils vont à Naples, ils reçoivent l'Atalanta, ils vont à Barcelone, à Karabag, et ils finissent par Tottenham. Marcus Krucheux, lorsqu'il y a eu le tirage au sort, a dit bah, de toute façon, on voulait la Ligue des Champions, bah, on l'a, quoi. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, évidemment, moi, ça me passionne. D'ailleurs, le match contre Galatasaray est presque un match à 6 points pour Francfort, et il doit absolument l'emporter, ce qui sera loin d'être évident lorsqu'on voit notamment l'attaque de Galatasaray. Mais surtout, en plus, le problème, c'est que ça arrive à un moment où on a été très déçus de la prestation, notamment en première mi-temps de Francfort vendredi. vendredi, qui affrontait Leverkusen. Leverkusen de Kasper Juhlmann, la nouvelle version. Et en fait, Krucheux, pareil, après la rencontre, il a un peu allumé tout le monde, les joueurs, le coach, les joueurs pour leur manque d'engagement, le fameux Einstellung, c'est-à-dire l'envie qu'on veut avoir, la lutte sur le terrain, le coach parce qu'il lui fait comprendre qu'il n'y a pas d'alternative, c'est-à-dire qu'en gros, si le club est mené, qu'est-ce que tu veux faire? Et c'est un peu ce qu'on reproche à Compagnie, d'ailleurs, version 2025, d'ailleurs.
Mmh. Pourtant, ils ont l'air proches, les deux, là, en l'occurrence, non?
Krucheux et Topmöller?
Ouais, non.
Krucheux, c'est peut-être le meilleur manager d'Allemagne en fin de Bundesliga pour le moment, mais moi je me rappelle, fin de première saison, Francfort se qualifie pour la Coupe d'Europe et il lui fait comprendre qu'il aimerait bien voir du spectacle sur le terrain. Donc la deuxième saison, Topmöller, il qualifie l'équipe pour la Ligue des Champions très bien, et là il a pas du tout été content. Et c'est normal parce qu'en fait on a vraiment été déçus par la prestation de Francfort où il y avait beaucoup de jeunes sur le terrain, notamment le jeune Uzun qui est bourré de talent. Ah oui. Mais encore une fois, quand tu vas jouer Tottenham, l'Atleti de Simeone et tout ça, ça va pas être évident. Et c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est que ce tirage au sort pourrait tomber sur n'importe quelle équipe européenne. Sauf que c'est tombé sur Leipzig l'année dernière. Ça tombe sur Francfort cette année, qui était chapeau 2 avant. Et en fait, moi, ce qui m'interpelle, c'est un peu les incohérences de ce tirage au sort.
Bien sûr.
C'est-à-dire que l'année dernière, j'en ai parlé avec Nadjim, notre producteur, Brest tombe sur les deux clubs autrichiens. Mmh. Comment tu peux tomber mathématiquement, en probabilité, sur les deux clubs autrichiens? Je sais plus, c'est la première ou troisième journée ou deuxième journée, je sais plus. Là, c'est les clubs, tu peux tomber d'un seul coup sur les deux clubs néerlandais, etc. Enfin, il y a quand même une variété, sauf à penser que encore une fois, on avait parlé pour les retransmissions des matchs, que le fait de ne plus de que les joueurs que les contraintes en fait liées au tirage au sort font qu'en fait on se retrouve avec un tirage au sort qui est orienté et trop orienté.
Pourquoi? Parce qu'il y a 6 clubs anglais, il y a 6 clubs espagnols, ouais, qui ne peuvent pas s'affronter. Donc forcément, tu as un tirage au sort très déséquilibré, quoi.
Et moi, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est génial pour Francfort de jouer ces 8 rencontres. Le problème, c'est faut pas tirer les mêmes conclusions que dire ils sont pas qualifiés dans le top 24 à la fin de la saison. Donc moi, je voulais savoir si dans vos championnats, vous avez un peu aussi des gens qui critiquent ce tirage au sort qui est quand même un peu spécial, parce que c'est comme ça. Ça fait 2 années qu'un club allemand qui n'aurait jamais dû avoir ce genre de tirage tombe là-dessus. Si chaque année ça se reproduit dans le même pays, c'est pas un complot contre le football allemand, c'est qu'il y a un problème dans le tirage.
Tout à fait.
C'est ça que moi qui me perturbe.
Est-ce qu'on réagit chez vous justement par rapport à ce tirage? Tiens, Daniel, chez toi qui n'a que 4 représentants entre guillemets, 4 en Ligue des Champions.
Ben ça suffit, c'est pas mal. Non, il y a pas trop ces discours-là. On parle plutôt de justement du fait que on joue pas la même équipe deux fois. Il y a un déséquilibre entre les équipes que tu joues à la maison et ce que tu dois affronter à l'extérieur, que ça peut être assez dur quand même. Ça fait toute la différence du monde, aller à Liverpool comme elle doit faire par exemple, pas l'Inter parce qu'il est à la maison, ou plutôt aller à les jouer à la maison, ou aller à Londres jouer contre Chelsea ou les avoir à la maison. La Juventus par exemple, elle doit aller à Madrid contre le Real, et c'est différent affronter le Real à Madrid ou par exemple Arsenal chez eux. Après, moi, il faut dire, les matchs ils sont sympas. Je comprends rien au classement. Je pense que ça sert pas à grand chose parce que la plupart des clubs, l'année dernière, Paris et Manchester City, si je me trompe pas, ils sont passés même avec très peu de points, avec très peu de victoires. Donc voilà, ça sert pas à grand chose. Mais les matchs, ils sont jolis.
Ouais, 24e semaine dernière, c'était Bruges avec 11 points. C'était la ligne de flottaison pour se qualifier pour la suite de la compétition, en l'occurrence pour les barrages de la Ligue des Champions. Mais c'est sûr que d'avoir 6 Anglais, forcément, tu fais des victimes quand tu n'es pas dans le championnat d'Angleterre. C'est la prime.
Un peu le truc, ouais.
C'est la prime au championnat fort, justement, qui évite l'écueil d'une confrontation. Et 5 Espagnols. Donc déjà, tu as 36 équipes au départ, tu as 11 Anglais et Espagnols, ce qui ne favorise pas les autres présumés petits championnats. Tu as parlé du championnat autrichien, par exemple, championnat de France aussi, qui forcément doivent se farcir une liste de courses beaucoup plus salée, quoi. Et quelle est la solution? Bon, je ne sais pas s'il y en a une.
Il faut sécuriser les investissements.
Peut-être.
C'est du sport.
Tu veux préciser, hein? Vas-y, Polo. Hein.
Non, mais au bout d'un moment, l'arnaque, faut arrêter. Quoi. Ouais. Tout est fait pour que les gros clubs soient là. Déjà, le fait qu'on soit à 24 et pas à 16 est plus puissant, on le sait très bien. Moi, je trouve cette nouvelle formule plus intéressante, mais encore une fois, faut changer la façon d'analyser les rencontres. Je suis assez d'accord avec Daniele. On a des rencontres qu'on n'avait pas forcément avant, donc ça a une diversification, une diversité des équipes qui est intéressante. Maintenant, voilà, enfin, on sait très bien comment va fonctionner le football dans quelques années et là, on est dans une période transitoire.
Transitoire. On aura quand même le droit le 21 octobre, hein, Almaty Paphos. Hein.
Voilà. Oui, c'est ça. Là, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que on trouve le contre-exemple qui fait que c'est ça qui est extraordinaire.
Oui, mais quelque part, tu sauves un peu le discours de Seferin et autres. Mais vous voyez bien, regardez, on a des petits qui s'affrontent aussi, qui ont la chance de prendre 3 points. On va te répondre aussi.
Je précise que c'est la grande spécificité du modèle libéral. On sort Zidane par rapport à sa condition, etc. Et on dit, regardez, Zidane y arrive. Sauf qu'il y a 99,99% qui n'y arrivent pas.
Tout à fait.
Donc ça, mais c'est pas grave.
La fausse méritocratie via le football.
Exactement.
Mais tu parlais de Kairat Almaty. Par exemple, le Real va jouer là-bas. Dans l'ancienne formule, ça veut dire qu'il aurait eu aussi un retour au Bernabeu qui, là, aurait été quand même plutôt inintéressant. Là, mine de rien, t'as des matchs variés, tu joues beaucoup d'équipes. Moi, ça me paraît impensable aujourd'hui d'imaginer regarder le tirage au sort de mon équipe et me dire bon bah en fait je vais jouer que 3 équipes et donc t'as une chance sur 2 d'avoir quasiment aucun match intéressant donc sur ce point là c'est quand même un succès je trouve le nouveau
format. Oui, mais il peut y avoir
une
meilleure répartition des clubs,
ça, bien sûr,
par pays, tu vois, une autre représentativité des nations en l'occurrence, quoi.
Bon, et l'année dernière, c'est sûr qu'en termes d'équité c'est différent.
Daniele,
l'année dernière, City a gagné que 3 matchs dans les premières 8.
Malgré ça, mais à l'arrivée, on a trouvé toujours un peu les mêmes. Daniele, la finalité reste la même. Ils sont toujours les plus puissants dans le dernier carré ou dans le dernier grand 8 de la Ligue des Champions.
Oui.
Bon, le Barça qui va lancer également sa saison Ligue des Champions face à Newcastle, ce sera jeudi soir. D'abord, tiens, les tours par la Ligue 2, Xavier Grimaud, la 50e entre Guingamp et Montpellier. Où en est-on?
Oui, c'est reparti, 1-0 donc pour Guingamp, le buteur Donatien Gomis à la 28e, les Guingampais qui sont logiquement devant, Montpellier qui déçoit, qui sont repartis avec un peu plus d'enthousiasme, les Montpelliérains. Ça joue déjà plus haut, on le voit avec un pressing là immédiatement sur le gardien dès les remises en jeu. Ils doivent faire mieux l'équipe de Zoumana Camara parce qu'ils sont mal classés dans cette Ligue 2. 1-0 pour les Bretons de Sylvain Ripoll, la 51e.
Et si Pedri était plus important que Yamal au FC Barcelone? Alors Yamal n'était pas là ce week-end, victoire 6-0 du Barça face à un pauvre Valence. Alors oui, il y a les doublés de Lewandowski, de Rafinha, de Fermín López, mais c'est encore Pedri, hein, comme il l'a fait en sélection, on en a parlé ici même, et notamment je vous invite à écouter le dernier épisode de l'After Espagne consacré à Pedri, son histoire de Tenerife à la Catalogne. Pedri a encore ébloui tout le monde, mon cher Edgar.
Oui, et pourtant, si tu regardes le résumé sur une application qui te montre que les statistiques, qui note les joueurs, ça va pas être le joueur qui ressort. Il a pas de but, il a pas de passe décisive, mais c'est quand même le joueur qui décide de tout, qui décide quand il faut accélérer, quand il faut ralentir le jeu, qui décide quand il faut partir sur les côtés ou quand il faut centrer directement sur Lewandowski. C'est le joueur qui vient te gratter des ballons, qui vient bien les exploiter aussi, parce que c'est une chose d'être bien placé et de servir son équipe défensivement, mais c'est encore autre chose de pouvoir ensuite bien la lancer une fois que l'équipe collectivement a pu récupérer les ballons. Donc je pense que Pedri est fondamental sur ça et on le sent depuis le début de la saison dernière. La question qui est le plus important entre Lamine Yamal et Pedri, je pense que Pedri, pour gagner des matchs tous les week-ends, est plus important que Lamine Yamal. Par contre, c'est sûr que dans un grand choc de Ligue des Champions, celui qui peut te faire la différence à n'importe quel moment, c'est plutôt Lamine Yamal. Mais celui qui te fait gagner le championnat, pour moi, c'est davantage Pedri, parce que je le dis depuis un an, pour moi, la plus grande force de cette équipe du FC Barcelone, c'est sa capacité à s'adapter, notamment offensivement. C'est-à-dire que c'est une équipe qui peut se débrouiller contre toi si t'as un bloc bas, qui peut se débrouiller contre toi si t'es très très haut sur le terrain, qui arrive à s'adapter en fait. Et ça passe par Pedri, parce que c'est lui qui, avec les autres évidemment, mais d'abord lui, qui arrive à justement avoir la palette assez large pour pouvoir parfois porter le ballon, parfois mettre le ballon dans la boîte. Et c'est lui, je pense, qui donne cette adaptabilité à Hansi Flick, qui fait du Barça cette équipe-là. Et parfois, ça se montre pas dans les stats. Le débat préféré des supporters du Barça et du Real, c'est qui est meilleur entre Pedri et Bellingham. Et il y en a qui vont vous dire Bellingham a des meilleures stats. Moi, j'ai pas forcément d'avis arrêté sur ça, mais je pense que ce sont deux joueurs qui apportent des choses très très différentes et que Pedri, ce ne sont pas juste les stats qu'il faut regarder. C'est vraiment tout le reste. Et c'est pas non plus les stats de passes réussies ou je ne sais quoi. C'est vraiment l'équilibre qu'il apporte à cette équipe et les options surtout qu'il apporte à cette équipe.
22 ans Pedri, 1m74 hein, qui illumine chaque week-end de Liga en Ligue des Champions. Julien, t'entends ce débat Bellingham, Pedri, t'es plus amoureux de qui toi? De Bellingham ou de Pedri?
C'est pas le même profil du tout.
Ouais, il y en a qui est un peu plus haut quand même sur le terrain.
Pour moi, c'est un débat forcé entre les deux.
Ouais, non, il y a pas de débat. Mais après, Pedri, c'est un artiste. Bellingham, c'est une machine physique avant tout. Déjà, après, c'est un mec super intelligent, qui est super fort, qui a plein de qualités. Mais Pedri, c'est pour moi, en tout cas, si tu veux un joueur qui va diriger ton jeu, le tempo de ton match, c'est Pedri tous les jours. Quoi. Pour moi, il y a pas photo.
Bellingham n'est pas censé le faire, ça, Polo. Il a les capacités de le faire,
C'est pas un vrai meneur de jeu.
Mais Pedri n'en est pas vraiment un non plus. C'est un joueur un peu plus reculé. C'est de l'interligne, quoi. C'est de l'espace. Bon. Voilà, donc ce sera face à Newcastle, à St. James Park, mon cher Julien. Newcastle qui a foiré son début de saison.
Sans la Minamale, donc.
Sans la Minamale, hein. Ouais. Julien qui a foiré son début de saison, Newcastle, hein. Une seule victoire en 4 journées de première ligue. Ce week-end, victoire face à Wolverhampton. Comment tu les sens, là, les Magpies, dans cette campagne de Ligue des Champions, justement?
Alors, déjà, pour les plus anciens parmi les auditeurs, c'est la suite de l'aventure de 1997. Rappelez-vous le Newcastle Barcelone de 97, le triplé de Faustino Asprilla. Ça ne rajeunit pas, hein, Nico.
T'as raison, Polo, bien sûr.
Daniele, pour Edgar, il n'était pas né encore, mais en 97. Mais voilà, c'était beau. Je souhaite un match aussi spectaculaire, ça c'est sûr. Après, ça a été compliqué parce qu'il a fallu digérer le départ d'Isaac, parce que ça s'est décidé très tard en plus. Voltemadeu marre de la tête, alors que ça faisait 2 semaines que je leur disais que non, mais vous savez, faut pas attendre à ce qu'il marre de la tête parce que c'est pas son point fort. Et bim, il marre de la tête. Mais oui, ça se remet en place, ça va se remettre en place difficilement. Ils avaient perdu Gordon, qui était expulsé en championnat contre Liverpool. Là, il sera là. On va voir, mais c'est une équipe physiquement, c'est l'une des équipes les plus fortes physiquement. Et à mon avis, la seule façon qu'ils ont pour gagner contre Barcelone, c'est de mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact physique, comme on l'a vu contre Liverpool par exemple en championnat. Et c'est là où ils sont très forts. Joao Linton, Bruno Guimarães et Tonali au milieu de terrain, c'est très fort. Et c'est seulement comme ça, à mon avis, qu'ils pourront causer des problèmes à ce Barça-là.
Il y avait déjà eu aussi un Newcastle-Barça en 2002-2003. Edgar devait avoir 1 an ou à peine, ou 2 ans peut-être. Qualif, non, c'était en phase de groupe. 3-1 pour le Barça, 3-2 au retour. Début notamment de Kluivert et Thiago Motta. Ça ne nous rajeunit pas, bien sûr.
D'ailleurs, mais on a le Juve.
Moi, ça me rajeunit, Nico.
Mais toi, ça te rajeunit.
97,
toi.
Hein.
Le quoi, tu dis?
Le Juve Dortmund, c'est aussi pareil.
97, c'est la.
97 aussi, de Lars Ricken et tout ça.
Mathias Zemmer.
Zemmer, exactement. Ouais. Il y a Andreas Müller dont on a parlé tout à l'heure, etc. Il y avait du beau monde.
Ravanelli aussi.
Ravanelli.
Il y avait du beau monde.
C'était une Juve bien saine, hein, bien préparée, hein, physiquement, Daniele à l'époque. Hein.
Elle est archi favorite en fait.
Je comprends pas votre.
On va s'arrêter là, alors, Daniele. Merci Daniele, Manoucia, Edgar Grollo, Julien Laurence, Polo Breitner. L'after arrive bien sûr. La suite de ce match de Ligue 2 entre Guingamp et Montpellier. Guingamp mène 1-0. On se retrouve la semaine prochaine, et drôle de dame, comme tous les lundis soirs, de 20h à 22h. Tous les podcasts After, Espagne, Allemagne, Italie, Angleterre, sont en ligne. Je vous le disais, pour l'Espagne, c'est Pedri qui est au programme, son portrait, son histoire, son aventure et sa domination avec le Barça. Bonne soirée à tous, l'After continue sur RMC.
Génération After.